Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Cet après-midi, ce sont les catacombes de Paris, un lieu plein de mystères que vous avez choisi de nous faire découvrir.
Oui, j'ai demandé à l'un des meilleurs connaisseurs de tout ce réseau souterrain, Gilles Thomas, de nous y servir de guide. Auparavant, j'aurais évoqué ce qui se trouve à l'origine des catacombes de la place d'Enfer-Rochereau, telles que nous les connaissons, à savoir les anciens, parfois très anciens cimetières de la capitale.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question que vous pose Cyril sur la page Facebook de l'émission.
Cyril me demande de revenir sur les origines des bouffons. Je ne vois pas de malice particulière dans cette question. Pour le moment, je vous propose de visiter Paris par en dessous, si je puis dire. Vous allez voir, c'est assez inattendu.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Alors ce dont nous allons parler tout à l'heure, c'est l'extraordinaire rassemblement d'ossements humains visibles, le plus extraordinaire que vous puissiez imaginer. Pour tout vous dire, la première fois que je suis descendu dans la partie publique officielle des catacombes de Paris, j'ignorais complètement que j'allais y trouver tout cet entassement de crânes, ces murs de tibias, de fémurs, cet océan de restes humains. Vous imaginez le choc. Je ne sais pas, je devais avoir 18 ou 19 ans à l'époque. Je descends, je vois catacombes de Paris. Je dis ça, c'est intéressant. Et vous arrivez, vous êtes au milieu d'une marée de restes humains. C'est absolument incroyable. Alors d'où viennent-ils ces ossements? Eh bien, ils viennent des anciens cimetières parisiens. Des cimetières qui n'ont jamais été entièrement assainis d'ailleurs. André Castelot disait qu'à Paris, on marche sur des cadavres. Et le fait est que les tombes, visibles et surtout invisibles, y sont innombrables. Alors, pendant tout un tas de siècles, les cimetières se sont en effet accumulés dans la ville. Ils se sont disséminés partout. Il faut vous dire que chaque église, chaque hôpital, chaque couvent possédait le sien. On disait que les bourgades des morts étaient disséminées à travers la ville des vivants. Avec le temps, lorsqu'il a fallu fermer un à un tous ces cimetières, on s'est surtout occupé des couches superficielles de sépultures dont les ossements ont été donc rassemblés. Nous allons y venir tout à l'heure, on va visiter les catacombes, je vous l'ai dit. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, les fossoyeurs y sont allés à la pioche sans beaucoup de soin et les tombeaux les plus anciens n'ont pas tous fait l'objet d'une véritable exhumation. En vérité, les vieux cimetières ont souvent été enfouis, recouverts et à leur emplacement se sont dressés des squares, des immeubles, des artères, squares, immeubles dont les fondations écrasent aujourd'hui des restes humains. Alors, essayons de les cerner, si vous le voulez, ces vieux cimetières parisiens. À quoi ressemblaient-ils? D'abord, pas du tout aux nôtres, il faut être conscient de ça. Pendant très longtemps, il y a eu très peu de tombes individuelles. La pratique ne s'est généralisée que dans la première moitié du XVIIIe siècle seulement. Il y avait certes des tombeaux pour les personnalités, les gens très importants, mais d'une façon générale, on utilisait les fosses communes. On enterrait nos pères d'une manière affreuse, dit André Castelot. Ce que Jacques Hilleret, grand historien de Paris, précisait dans les termes suivants. L'inhumation dans ces cimetières se faisait en fosses communes, tranchées de 5 à 10 mètres de profondeur, où 1000 à 15 000 cadavres environ, en linceul ou en bière, étaient entassés, contrairement aux sages prescriptions qu'avait jadis arrêté Chilpéric III. Chilpéric III était le roi des Francs entre 743 et 751, et c'est lui qui avait essayé d'assainir tout ça. Il avait interdit notamment la superposition des corps, mais on ne tenait nul compte de ces prescriptions. Les cercueils, nous dit Hilleret, étaient laissés à nu dans la fosse tant que leur rangée n'était pas terminée, et lorsqu'elle l'était, on recouvrait cette rangée de 15 à 20 cm de terre et on recommençait un nouveau lit. Il émanait alors de ces fosses couvertes de planches non jointes une odeur effroyable qui se répandait dans tout le quartier. C'est bien d'être à 14h parce qu'il y a quand même moins d'auditeurs à table, je crois, enfin j'espère en tout cas. Quand une fosse était pleine, on la recouvrait de terre, puis on en creusait une autre à côté et lorsque venait l'époque de la réutiliser, eh bien tout simplement, on la vidait de ses ossements qu'on empilait plus ou moins décharnés dans les combles de galeries qui entouraient le cimetière, ce qu'on appelait le charnier qui faisait en vérité le cimetière. Alors notez que dans ces temps assez reculés, on ne parlait pas de cimetière, on parlait essentiellement de champs de repos. C'est comme ça qu'on les nommait. C'était d'assez petits espaces. Hein. Certains de ces enclos des morts, tel celui de l'église Saint-Landry, nous dit André Castelot, recouvert aujourd'hui par un bâtiment de l'Hôtel Dieu, n'avait que 11 mètres sur 5. Vous l'aurez compris, ce n'étaient pas les belles demeures qui voisinaient ces champs de repos, car vivre à proximité d'une fosse commune mettait les narines à rude épreuve. Encore André Castelot. Quand il allait pleuvoir, dit-il, il s'élevait du cimetière des vapeurs si empestées qu'elles pénétraient dans les appartements et altéraient même la couleur des tentures et des tapisseries. C'est en tout cas ce qu'on prétendait. Ces pestilences, comme on disait alors, étaient évidemment redoutables. L'écrivain Louis-Sébastien Mercier nous dit « Sous ces charniers, dont le coup d'œil est le plus effrayant qui soit dans l'univers, les rats vivent parmi les ossements humains, les dérangent, les soulèvent et semblent animer ce peuple de morts qui montre à la génération présente la place qu'elle occupera sur ces gradins où les débris de l'humanité sont placés non plus selon les rangs qu'ils occupaient autrefois, mais d'après leur grandeur physique, ils vont tous former la terre calcaire. » Alors, si vous allez dans le centre de Paris, du côté du Marais, vous allez trouver pas mal de vestiges de tout ce que je vous raconte là. Par exemple, à l'angle de la rue de l'Hôtel Saint-Paul et de la rue Neuve-Saint-Pierre, c'est, si vous voulez, c'est en face de l'Hôtel de Sully, de l'autre côté de la rue Saint-Antoine, quand vous allez vers la Seine. Là se trouvait le cimetière Saint-Paul, qui avait été fondé au temps mérovingien, justement, en 632. Donc, à l'époque, on était tout à fait hors de Paris. Il mesurait ce champ de repos, il mesurait 63 mètres sur 44. Vous voyez que c'était relativement modeste. Le pâté de maison actuel est toujours à ces dimensions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce champ de repos n'a été vendu qu'à la Révolution en 1791 comme bien national. Ce qui veut dire que pendant 11 siècles, je dis bien pendant 11 siècles, des milliers et des milliers de corps y ont été enterrés. Or, personne n'a déterré ceux qui n'étaient pas encore au charnier. Aujourd'hui, les passants qui marchent dans ce quartier-là passent donc au-dessus de restes humains. Et parmi ces restes, vous avez probablement l'homme au masque de fer, figurez-vous, puisque les prisonniers de la Bastille étaient justement inhumés dans ce cimetière Saint-Paul. Il y a aussi les restes de Mignon d'Henri III, Maugiron Quélus et Saint-Mégrin, qui tous trois avaient été assassinés. Leur mausolée, qui avait été réalisée dans un modèle identique, hein, c'était trois, il y avait trois mausolées identiques, ont été détruits par le peuple en 1588 au moment de l'assassinat du duc de Guise, donc 10 ans après la mort des intéressés. Mieux encore, les habitants des immeubles de ce coin du quartier Saint-Paul vivent au-dessus des restes de François Rabelais. Il a été enterré au cimetière Saint-Paul en avril 1553 au pied d'un figuier. Le corps de la courtisane Marion Delorme repose sans doute aussi dans les parages. La jeune femme était morte à 39 ans. On en a parlé à ce micro, Anne Marion Delorme, une espèce de l'incarnation même de la joie de vivre et qui aujourd'hui repose quelque part là sous le trottoir. Et puis l'ancienne patronne de Molière, aussi devenue sa belle-mère, Madeleine Béjart, est enterrée à cet endroit. On pourrait multiplier les cas, je vais pas vous faire la liste. Déplaçons-nous, si vous le voulez, vers l'ouest, par la rue de Rivoli, jusqu'aux abords du Louvre. Vous trouvez là quelques-uns des gardes suisses qui ont été massacrés le 10 août 1792, au moment du sac des Tuileries, vous savez, puisqu'ils ont été inhumés dans une fosse au pied d'un marronnier du jardin des Tuileries, figurez-vous. Et puis, de l'autre côté du Louvre, vous avez également toutes sortes d'artistes, d'écrivains, etc., qui ont été enterrés. Malherbe, Jodel, Théophraste Renaudot, Louis Levaux, Coisevaux, Jean-Baptiste Chardin, Nicolas et Guillaume Cousteau, tout Noël Coipel et François Boucher, etc., etc. Passons dans le deuxième arrondissement, si vous voulez. De nombreux paroissiens de Saint-Eustache reposent rue Montmartre au niveau du numéro 144. C'est là, en effet, que se situait l'entrée du cimetière Saint-Joseph, où étaient inhumés les paroissiens de Saint-Eustache, dont Voiture, Vaugelas, enfin, tous les grands Benserades, enfin, tous les grands fondateurs de notre langue. Et aujourd'hui, on ne peut plus marcher sur les restes de Molière, nous dit un guide du quartier, parce que, il avait été enterré là, mais ses restes ont été, enfin, ses restes présumés, ont été transférés au Père Lachaise. Alors par ailleurs, je vous le disais l'autre jour, en foulant les trottoirs de la rue de la Paix, rappelez-vous, on parlait de Madame de Pompadour et je vous disais qu'on marchait sur Madame de Pompadour. Ben, c'est exactement ça, puisque au niveau du à peu près 3 rues de la Paix se trouvait le couvent des Capucines. On savait que non loin d'elle se trouvait la sépulture de la marquise de Pompadour, justement un historien de la ville, qui avait acheté le caveau de la famille de la Trimouille. On se pencha au-dessus du vieux plan plan, on acquit la certitude que ce caveau devait se trouver sous le trottoir s'étendant devant l'immeuble portant le numéro 3 de la rue de la Paix. Et Michel de Decker enfonce le clou. Madame de Pompadour, dit-il, demeurée dans son tombeau, dort encore aujourd'hui sous le pavé de l'ancienne rue Napoléon, devenue rue de la Paix en 1814, et sans doute devant l'immeuble portant le numéro 3. Tout le monde a l'air à peu près d'accord. Alors, les voitures qui circulent place de la Bastille font sans doute encore vibrer au tiers de la distance qui sépare la colonne du bout de la rue du Faubourg Saint-Antoine, le savant et céramiste Bernard Palissy, par exemple. Parce que Palissy était mort dans la forteresse, vous allez me dire, alors il aurait dû être enterré au cimetière Saint-Paul, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien oui, mais il était protestant en l'occurrence, donc il a été simplement inhumé dans un des bastions. Je suis sûr que certains d'entre vous, et notamment ceux qui nous écoutent dans les embouteillages parisiens, commencent à regarder la capitale d'un autre œil.
Europe 1, 14h, 15h,
au cœur de l'histoire.
Danse macabre, un extrait de Camille Saint-Saëns de Daniel Barenboim sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la visite des cimetières parisiens.
Oui, alors si vous voulez, je ne vais pas évidemment égrener tous les morts qui peuvent se trouver sous le bitume des chaussées parisiennes. Simplement, faisons un petit tour de Paris, si vous voulez. On a fait 1, 2, 3, 4 arrondissements déjà. Alors, passons de l'autre côté de la Seine, dans le 5e arrondissement, où se trouvait notamment, entre autres, bien sûr, le cimetière Saint-Benoît, qui avait été créé au tout début du 17e siècle, auprès de l'église du même nom, bien entendu. Aujourd'hui, sous le trottoir du côté père de la rue du cimetière Saint-Benoît, nous dit-on, figurent encore les restes des frères Perrault. Claude Perrault, qui est évidemment l'auteur de la colonnade du Louvre, et puis le célèbre Charles Perrault, l'auteur présumé des contes. Parce que rappelez-vous, quand on avait parlé de Charles Perrault, on avait vu que son fils n'était pas pour rien dans cette affaire. Alors, d'autres corps reposent dans le 5e arrondissement. Si vous allez du côté de la place et de la rue de Fürstenberg, vous allez marcher au-dessus des corps de nombreux moines qui ont été ensevelis dans le cloître de l'abbaye. Au même endroit, c'est-à-dire au numéro 10 de la rue de Fürstenberg, vous avez les tombes de Pierre de Montreuil et de sa femme Agnès Pierre de Montreuil. Alors ça nous remonte très loin. Ça, c'était l'architecte de la Sainte-Chapelle. Vous savez, ce grand architecte du Moyen-Âge. Quant au corps de Marat, il se trouve simplement sous les pieds des passants de la bibliothèque Sainte-Geneviève, 10 place du Panthéon, à seulement 60 cm sous terre. C'est là, en effet, que se trouvait l'ancien grand cimetière de Saint-Étienne-du-Mont. Les restes, vous savez, de Marat avaient été transportés à cet endroit après son expulsion du Panthéon, puisqu'il avait d'abord fait une petite station au Panthéon, puis il a été expulsé en février 95. Quant à Mirabeau, d'ailleurs, dont le corps a lui aussi été délogé du Panthéon, mais bien sûr quelques mois avant Marat, il se trouve aujourd'hui un petit peu plus loin. Sa dépouille a été exhumée en 95 et transférée dans un cimetière boulevard Saint-Marcel, ce que nous raconte Le Nôtre, parce que le grand historien de toute cette affaire, c'est bien entendu le pape de la petite histoire, c'est G. Le Nôtre, qui au début du XXe siècle s'est beaucoup amusé avec tout cela. Vous savez qu'aujourd'hui, mon ami Clémentine Portier-Kaltenbach a pris la relève, si je puis dire. Il faut lire absolument ou relire ces histoires d'os et autres illustres abbatis qui ont été publiés arrivée chez Lattès en 2007. Alors, puisqu'on est dans ce quartier de la Sorbonne, si vous voulez, rue Cujas, vous avez la tombe de Robert de Clermont, un des ancêtres des rois de France, qui avait été enterré là avec Charles et Louis de Valois. On n'en finirait pas, il y en a partout en fait. Si on devait mettre des petites pancartes, vous savez, un peu à la façon des pelles Stark, là, à chaque endroit où se trouve une sépulture... réel ou supposé, encore une fois, parce que vous savez, tout ça a été tellement brassé qu'on ne sait pas toujours si les corps sont encore là, mais en tout cas, on n'en finirait pas. Il y en a beaucoup dans le 6e arrondissement, par exemple, mais je ne vais pas tout vous citer, mais dans le 6e arrondissement, vous avez la tombe d'Ambroise Paré, par exemple, enfin la tombe, la sépulture d'Ambroise Paré. La tour Eiffel elle-même sert plus ou moins, si l'on peut le dire, de monument aux morts à certaines victimes de la Saint-Barthélemy, puisque... À l'époque de la Saint-Barthélemy, quelques 1200 morts ont été ensevelis sur l'île Maquerel, qui ensuite est devenue l'île des Cygnes, qui a été, à la fin du XVIIIe siècle, rattachée à la rive gauche de Paris au moment de la création du Champ de Mars. Donc vous avez là, sous la tour Eiffel, quasiment, vous avez beaucoup de sépultures des morts de la Saint-Barthélemy. Dans le 8e arrondissement, alors je vais vous faire grâce du square Louis XVI, ça tout le monde sait évidemment, vous savez ce square Louis XVI qui est l'ancien cimetière de la Madeleine, où vous trouveriez les ossements de Madame du Barry, du général de Custine, de Madame Roland, de Charlotte Corday, bien entendu, et puis probablement de Danton, de Robespierre, de Philippe Égalité, et même de l'accusateur public Fouquier-Tinville, etc. Si vous allez un petit peu plus loin dans le 9e arrondissement, au carrefour de Châteaudun, vous avez même la tombe de la mère de Mozart. Elle est répertoriée, Anna Maria Mozart, on sait exactement où elle se trouve. Bon, je vous passe plein de détails. Il y a quelques endroits qui, si on va maintenant vers la périphérie de Paris, on arrive dans le 10e arrondissement, il y a quelques endroits qui sont historiquement marqués par la mort et le charnier, si je puis dire, et notamment le célèbre gibet de Montfaucon, qui se situait entre les actuelles rues des Écluses Saint-Martin, de la Grange-Aubel et Louis Blanc. On est donc là dans le 10e arrondissement de Paris. À l'époque, on était loin de la capitale, bien entendu. On avait fait exprès d'installer cette espèce d'énorme gibet où on pendait les corps des condamnés à mort, hein, et qui tombaient là en putréfaction. Enfin, c'était absolument immonde. On l'avait mis exprès loin de Paris, mais maintenant, vous voyez qu'il se retrouve complètement englobé dans l'agglomération. Un mot peut-être pour le 12e arrondissement, un mot du cimetière de Picpus, où figurent encore les restes de 1306 victimes de la Grande Terreur, bien entendu. Ça se visite l'après-midi, le cimetière de Picpus. Et si vous y allez, ne manquez pas de saluer la tombe de l'historien qui aura le plus consacré d'énergie à l'identification de toutes ces sépultures oubliées, le fameux Le Nôtre, monsieur G. Le Nôtre en personne.
Franck Ferrand sur Europe 1.
J'ai des tombeaux en abondance, des sépultures à discrétion. Dans tout cimetière, quelque importance, j'ai ma petite concession. De l'humble tertre au mausolée, avec toujours quelqu'un dedans. J'ai des petites bosses plein les allées, et je suis triste cependant. Car je n'en ai pas, et ça m'agace, et ça défrise mon blason. Au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. J'en possède au Père Lachaise, à Bagneux, à Thiers, à Pantin, et jusque ne vous en déplaise, au fond du cimetière marin. À la ville comme à la campagne, partout où l'on peut faire un trou, j'ai même des tombeaux en Espagne qu'on me jalouse peu ou prou. Mais je n'en ai pas la moindre trace, le plus humble petit soupçon. Au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. Le jour des morts, je cours, je vole, je vais infatigablement de nécropole en nécropole, de pierre tombale en monument. On m'entrevoit sous une couronne d'immortels à Champéret. Un peu plus tard, c'est à Charonne qu'on m'aperçoit sous un cyprès. Mais seul un fourbe aura l'audace de dire je l'ai vu à l'horizon du cimetière du Montparnasse, à quatre pas de sa maison, à quatre pas de sa maison. devant le château de ma grand-tante, la marquise de Carabas. Ma sainte famille, languide d'attente, mourra-t-elle, mourra-t-elle pas? L'un veut son or, l'autre ses meubles, qui ses bijoux, qui ses bibelots, qui ses forêts, qui ses immeubles, qui ses tapis, qui ses tableaux. Moi je n'implore qu'une grâce, c'est qu'elle passe la morte saison au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. Ainsi chantait la mort dans l'âme, un jeune homme de bonne tenue, en train de ranimer la flamme du soldat qui lui était connu. Or il advint que le ciel eut marre de l'entendre parler de ses caveaux, et Dieu fit signe à la camarde de l'expédier rue Froidevaux. Mais les croque-morts qui étaient de Chartres, funeste erreur de livraison, menèrent sa dépouille à Montmartre, de l'autre côté de sa maison, de l'autre côté de sa maison.
Georges Brassens sur Europe 1, un extrait de son titre « La balade des cimetières ».
Eh oui, alors on est justement avec Georges Brassens au cimetière du Montparnasse. En fait, ça fait partie de ces endroits où sont encore entreposés des ossements. À la suppression des anciennes fosses communes du cimetière, c'était du cimetière Montparnasse, c'était en 1870, les ossements exhumés en très grande quantité ont été entreposés directement dans le cimetière, dans des galeries aménagées, car les catacombes, comme on les appelle, ne pouvaient pas être agrandi. Alors, venons-en à ces catacombes. Dans le quartier des Halles, à Paris, à l'emplacement de l'ancien cimetière des Innocents, vous aviez des millions de corps ensevelis. Il faut vous dire qu'on avait installé là les dépouilles de 22 paroisses de Paris, plus les cadavres de la morgue, etc. Un seul fossoyeur, nous dit André Castelot, en moins de 30 ans, reconnu en avoir enfoui 90 000 qu'il avait rangés comme des tranches de lard, disait-il, dans la grande fosse des Misérables. Alors, la particularité de ce cimetière des Innocents, c'est que c'est là qu'avait été construite la première fosse de Paris. Et puis, au XVIIIe siècle, il était complètement surchargé. On raconte que l'accumulation de cadavres avait carrément même provoqué un exhaussement du sol qui montait à 2,50 m au-dessus du sol de la chaussée. C'est ce que nous dit Gilles Thomas, notre invité, qui va nous expliquer tout ça. Et les riverains ont même signé une pétition pour demander un autre emplacement, car l'odeur cadavéreuse et putréfiante devint insupportable aux citoyens qui l'avoisinent et dangereuse à la ville de Paris, disait-on. Donc, les ossements ont disparu des sous-sols de cet emplacement, mais ils ont été transférés en partie dans les catacombes. C'était un transport qui se faisait de nuit à plusieurs reprises. La dernière fournée, si je puis dire, en 1860, a encore comporté 813 tombereaux d'ossements, nous dit André Castelot, qui croit qu'aujourd'hui sont peut-être présents encore sous nos pieds dans le quartier des Halles, les restes de la fontaine, dit-il, inhumée aux innocents, car la tombe du Père Lachaise ne doit sans doute pas contenir les restes du cher fabuliste. Donc, il fallait prévoir un grand ossuaire pour réunir tous les restes, et on a eu l'idée de les installer dans ces anciennes carrières. Je cite un extrait des catacombes de Paris de Gilles Thomas. « Paris, la ville lumière, écrit-il, possède sa part d'ombre. En sous-sol s'est développé un autre monde, un univers parallèle pourtant étroitement lié à celui de la surface, une doublure sombre de la capitale, avec ses propres artères, ses places, ses carrefours. L'ossuaire général de la ville de Paris a été aménagé, vous l'avez compris, à la fin du XVIIIe siècle, à 20-25 mètres sous terre, dans les anciennes carrières de calcaire de la plaine de Montrouge, qu'on appelait les carrières de la tombissoire. Et c'est l'origine de ce qu'on a appelé les catacombes. Alors, c'est vrai que le terme n'est peut-être pas choisi. Nous avons un message parmi de très nombreux messages aujourd'hui. Hein. C'est vraiment une floraison de messages. Benjamin nous dit que lors de sa visite des catacombes de Saint-Sébastien à Rome, qui sont de vraies catacombes, on lui a dit que les catacombes de Paris n'étaient pas des catacombes, que c'était seulement un ossuaire. Ben oui, mais c'est le nom qu'on leur a donné, les catacombes de Paris, qui sont effectivement dans une d'anciennes carrières, des galeries creusées très profond. Cet ossuaire est très spectaculaire et si vous le voulez bien, dans un instant, nous allons maintenant le visiter. Bonjour Gilles Thomas, vous allez nous servir de guide dans ces catacombes de Paris. On va mettre une petite laine parce qu'il y fait nettement plus frais et on vous suit dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des catacombes de Paris. Avec vous Franck Ferrand et votre invité Gilles Thomas, scientifique de formation et historien du sous-sol, auteur des catacombes de Paris aux éditions Paris-Gramme. Et nous avons, vous l'avez dit Franck, déjà beaucoup de réactions de nos auditeurs.
Oui, énormément. Alors je ne peux pas du tout toutes les mentionner. Au sujet de ces vieux cimetières de Paris, nous dit notamment Myrion, il faut lire les très bonnes publications du GAAF, le groupe d'anthropologie et d'archéologie funéraire, dont j'ignorais l'existence, je dois le reconnaître. Notamment les rencontres autour du linceul, du cercueil et celles sur le paysage du cimetière médiéval et moderne, nous dit-elle. Et puis alors, beaucoup d'auditeurs un peu partout, notamment Thibault de Montréal, nous dit qu'il avait été déçu d'apprendre que, quand il était enfant, il a appris que les cendres de Lavoisier ne se trouvaient pas au Panthéon, mais dans les catacombes, après avoir été inhumé dans une fosse du cimetière des Érancy. Et il dit, depuis j'ai visité les catacombes, il y fait plutôt frais. C'est vrai qu'il y fait frais physiquement et moralement d'une certaine manière. Arrête, c'est ici l'empire de la mort, nous annonce une inscription au linteau. Alors il faut imaginer à quoi ça ressemble. Vous êtes au départ sur la place d'Enfer Rochereau, là où il y a le fameux lion de Belfort, vous savez. Et puis vous prenez par un petit pavillon qui est un ancien pavillon d'octroi de l'ancien mur des fermiers généraux. Vous savez, vous descendez, comme ça vous prenez votre billet, vous descendez. Il y a des escaliers. On a l'impression qu'on s'enfonce, on s'est jusque dans les entrailles de la terre. Et puis d'un seul coup, vous arrivez devant cette fameuse annonce qui dit en gros, visite fait demi-tour, parce que c'est ici le règne de la mort, Gilles Thomas.
Mais bien sûr, il y a cette sentence qui nous incite à faire demi-tour, mais il est trop tard, on ne peut que...
On a déjà effectué la descente.
On a déjà effectué un tiers du parcours, et là on arrive effectivement à la porte de l'ossuaire, et c'est la première phrase que vont retenir les visiteurs, et c'est malgré la visite au milieu de ces ossements de 6 millions d'individus, c'est la seule phrase qu'ils vont retenir.
Alors il y a des photos qui font froid dans le dos, dans le guide là, des catacombes. Les murs entiers sont tapissés littéralement de crânes humains. Et puis alors, ce qui est très étrange, et je ne vous cache pas que c'est, je pense, ce qui aujourd'hui aurait tendance à heurter le plus la sensibilité des visiteurs modernes, c'est qu'on s'est amusé. On a fait des espèces de décors, d'inscriptions, on a mis des croix qu'on a fait avec des tibias et des cubitus, enfin tout ça est assez incroyable, on les a disposés ces ossements.
Mais il faut s'en mettre dans l'état d'esprit du XVIIIe siècle en fait, les ossuaires étaient décorés de cette façon-là. Autour du charnier des Innocents, les ossements étaient rangés et on faisait quelques décors avec les crânes qui sont la partie la plus typique du squelette humain.
Alors d'où venaient tous ces restes humains des fameux cimetières dont je parlais tout à l'heure, non?
Et effectivement, à partir de fin 1785, on a commencé à transférer tous les ossements du cimetière des Innocents. Et cette mesure ayant bien été prise par la population parisienne, on a décidé de vider tous les cimetières parisiens un par un. Et on a transféré ces ossements, comme pour tout à l'heure vous aviez évoqué le charnier de Montfaucon, on a transféré ces ossements à l'extérieur de Paris.
Ah oui, c'est ça, c'est qu'à l'époque, on était encore à l'extérieur de Paris, là, bien sûr. On était à la limite, disons.
Nous sommes vraiment sous la plaine de Montrouge, donc nous sommes sous la commune extérieure à Paris.
C'est ça, c'est parce que il faut bien dire qu'on est en sous-sol. On va venir à l'histoire des carrières tout à l'heure, qui est tout à fait extraordinaire. Puis vous allez nous dire ce qui se passe encore aujourd'hui dans ces catacombes, parce qu'il y a la partie officielle dont nous sommes en train de parler en ce moment, le grand ossuaire, et puis il y a une partie officieuse où s'amusent ceux qu'on appelle les cataphiles. Alors, ils sont censés ne plus exister, mais enfin, bon, on ne va pas faire trop de langue de bois non plus à ce micro cet après-midi. Alors, continuons pour ce qui est de l'ossuaire. Ça, c'est assez extraordinaire. Au départ, il s'agit donc bien d'une mesure d'assainissement. C'est ça l'idée.
Au départ, c'est effectivement une mesure de salubrité publique parce que ce cimetière des Innocents qui servait de cimetière depuis l'origine était saturé de corps. Et comme le disent les chroniqueurs au XVIIIe siècle, le sol de ce cimetière était exhaussé de 2,50 m. Parce que quand vous enterrez un corps, la terre que vous avez prélevée pour faire le trou, vous la remettez par-dessus. Et quand vous faites ça pendant des siècles et des siècles, le sol finit par monter.
Monter le niveau du sol,
voilà,
en fait.
Vous faites monter le niveau.
Alors, il y avait, on se plaignait beaucoup, j'ai lu un certain nombre de témoignages des riverains qui, évidemment, se plaignaient des pestilences. C'était pas très agréable comme voisinage. Et puis surtout, on est en pleine période de lotissement, on a besoin d'espace, on est en pleine période, on est dans le triomphe de l'urbanisme à la fin du XVIIIe siècle, donc on veut faire des avenues, des places, etc. Et donc il faut de la place dans la ville, tout simplement. Donc,
effectivement, ce choix de vider le cimetière des Innocents provient de cette accumulation de deux choses. Et les riverains n'arrêtaient pas de se plaindre depuis des années, voire des siècles. Ces plaintes étaient sans effet. Et il est arrivé un gros accident à la fin de... Enfin, en 1779, on ouvre une fosse commune pour enterrer 2000 corps. Et en février 1780, cette fosse commune explose et se vide dans la cave d'un particulier à côté du cimetière des Innocents.
Oui, donc là, il fallait faire quelque chose, en quelque sorte. Ça n'est pas un hasard si on est sous le règne de Louis XVI, en pleine période de réforme, d'assainissement. On est en train, en quelque sorte, de nettoyer les écuries d'Augias.
Cette formation des catacombes fait partie des grands travaux d'urbanisme et de salubrité publique.
Alors, il y a eu, vous nous dites, 6 millions d'ossements, 6 millions de corps, disons plus exactement.
C'est une estimation.
Oui,
aux alentours de 1860, on a commencé à recenser les différents cimetières qui avaient été vidés. On a calculé à peu près le nombre d'inhumations qu'il y avait par cimetière et on estime que dans les catacombes, il y a les ossements de 6 millions d'individus, c'est-à-dire 3 fois la population de Paris en surface.
Ouais, c'est impressionnant. Alors, ces 6 millions d'individus, il faut bien préciser qu'ils sont anonymes. On ne sait pas du tout à qui appartient tel crâne ou tel... ou tel ossement.
Ces ossements sont à la fois complètement anonymes et complètement mélangés. C'est-à-dire, quand on vidait les tombes d'un cimetière, on ne faisait pas un recensement des tombes que l'on vidait. On mettait tout ça dans des chariots. Ces chariots circulaient la nuit venue pour aller se vider dans un puits qui était aujourd'hui avenue René Coty. Et ce puits était vidé et on entreposait grossièrement les ossements dans ces catacombes à la fin du XVIIIe siècle.
Ouais, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Alors, ils étaient tous anonymes, mais j'ai appris en vous lisant qu'il y a un personnage dont on connaît le nom. C'est un certain Philibert Asper.
C'est un peu plus particulier que ça. C'est que tous les ossements sont anonymes dans les catacombes et... En fait, par catacombe, on peut aussi comprendre l'ensemble des carrières qui entourent l'ossuaire municipal. Et dans ces carrières qui entourent l'ossuaire municipal, il y a une tombe, une vraie tombe de quelqu'un qui a été enterré sous terre en 1804. C'est Philibert Asper qui était le portier du Val-de-Grâce.
Comment se fait-il qu'il soit là, lui ?
En 1793, en pleine terreur, ce Philibert Asper disparaît de la surface de Paris.
Oui, c'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire. Et 11 ans plus tard, on retrouve son squelette à 20 mètres sous terre, du côté de l'école des mines, enfin à 20 mètres dans les carrières sous l'école des mines, et on décide, ça on ne sait absolument pas pourquoi, on décide de l'inhumer sur place au lieu de transférer ses ossements parmi les millions d'anonymes qui sont dans les catacombes. On lui fait une tombe particulière sous Paris.
Alors en fait, on peut dire que c'est le hasard, c'est une drôle de destinée, mais ça n'a pas été une volonté délibérée. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'on lui a fait cette tombe à cet endroit parce que la période ne se prêtait pas à une inhumation.
C'est pratiquement inexplicable, mais en tout cas, on lui a fait cette tombe à cet endroit sous la volonté de Éricard de Thury, qui était la personne
qui était en train d'aménager
les catacombes.
Oui, bien sûr, Éricard, c'est fondamental. Il y a un autre personnage, c'est Françoise Gélin, dite Dame Le Gros. Elle a une dalle funéraire aussi.
Elle, c'est particulier. On a sa dalle funéraire dans les catacombes. Cette dalle a été transférée en 1860 lorsqu'on a vidé le cimetière de Vaugirard où elle avait été inhumée. Et c'est la seule dalle funéraire qui est arrivée dans les catacombes, alors qu'au XVIIIe siècle, au moment où on vidait le cimetière des Innocents, on avait gardé un certain nombre de dalles funéraires qui paraissaient intéressantes, mais manque de chance, la Révolution arrivant, ces dalles ont été cassées et on n'en a aucune trace.
Alors pourquoi est-ce qu'on appelle cet endroit les catacombes de Paris ? Parce que comme nous le faisait remarquer notre auditeur, Benjamin, c'est vrai que ce ne sont pas des catacombes au sens historique tel qu'on peut l'imaginer à Rome, effectivement. Hein, ces endroits qui ont été le lieu de culte des tout premiers chrétiens. Là, on est dans d'anciennes carrières qui sont devenues un ossuaire. On devrait parler de l'ossuaire. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé les catacombes ?
Eh bien justement, c'est en référence aux catacombes de Rome. À la fin du XVIIIe siècle, mais bien avant la création des catacombes, en 1782, puisque les catacombes ont été inaugurées en avril 1786. Donc en 1782, il y a un opuscule anonyme qui était en vente dans les magasins de nouveautés qui disait « On va créer des catacombes à Paris », mais simplement par référence aux catacombes de Rome. Et ce mot a été tout de suite adopté par la population.
On aurait pu imaginer que cette population veuille mettre les ossements loin de sa vue, si je puis dire. Pourquoi est-ce que ça se visite ? Ça pourrait tout à fait être un lieu... Alors, on pourrait imaginer que ça s'ouvre sur rendez-vous pour à titre de curiosité, pour quelques chercheurs ou que sais-je. Mais là, c'est un lieu public, ça se visite comme on visiterait une exposition ou un musée, en fait. C'est assez étrange.
Et c'est d'autant plus un musée qu'il fait partie des 14 musées de la ville de Paris.
Ah, voilà, voilà.
Mais il se visite uniquement depuis 1809, depuis une volonté de l'inspecteur des carrières qui était Éricard de Thury, sachant qu'avant, pendant les travaux d'assainissement, pendant les premiers transferts d'ossements, il y a quelques privilégiés qui ont demandé une autorisation pour aller voir ces catacombes, on les invitait à venir voir ces catacombes. Mais c'était uniquement sur demande.
C'est-à-dire qu'entre le règne de Louis XVI et le milieu de celui de Napoléon Ier, on ne visitait pas les catacombes. Ça, ça a été ouvert, vous nous dites, 1809.
En 1809. Ah,
voilà. Mais ensuite, c'est devenu une véritable... On sait qu'à l'époque romantique, c'était le dernier lieu où il fallait se... où l'on cause. Hein.
C'est devenu tellement les Parisiens voulaient tellement visiter ce lieu qu'on est passé progressivement de 4 visites par an à visite une fois par mois, puis visite tous les 15 jours.
Il y avait sans arrêt des demandes
et on a adapté l'ouverture aux demandes.
Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu hors du temps, et en même temps il y a bien l'empreinte de cette époque romantique dans les catacombes. On a continué à les alimenter, si je puis dire, jusqu'à la fin du 19e, c'est ça, jusqu'au règne de Napoléon III en fait. Hein.
Au moment des grands travaux haussmanniens, lorsque des boulevards ont été percés, des avenues ont été percées, on a retrouvé des cimetières et on a transféré ces ossements à nouveau dans les catacombes.
Alors ces catacombes, il est possible de les visiter aujourd'hui, bien entendu. Il faut expliquer à nos auditeurs, c'est tout simple en fait. Hein.
Oui, c'est un musée comme tous les musées de la ville de Paris. Il est fermé le lundi et il est ouvert effectivement tous les jours, mais avec des horaires très restreints qui sont de 10h à 16h pour l'ouverture, la fermeture étant à 17h.
Et je suggère à nos auditeurs de lire votre guide d'abord, si je puis dire, parce qu'on peut s'en servir aussi comme souvenir. Mais c'est mieux de lire d'abord parce qu'on sait exactement ce à quoi on peut s'attendre. Alors l'effet de surprise est peut-être un peu moindre, mais on profite davantage d'une certaine manière de la visite. Ça s'appelle « Les catacombes de Paris » de Gilles Thomas, avec des photographies d'Emmanuel Gaffard, et c'est édité chez Paris Gram. Vous nous dites, Gilles Thomas, qu'on ne peut pas parler des catacombes sans parler des carrières dans lesquelles elles se trouvent, bien entendu. Et puis, il y a un nom que vous avez cité à plusieurs reprises, c'est Héricard de Thurie. Alors, on va venir à tout cet aspect géologique, en quelque sorte, en votre compagnie dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes au cœur de l'histoire des catacombes de Paris avec vous Franck Ferrand et votre invité Gilles Thomas, scientifique de formation, historien du sous-sol, auteur des catacombes de Paris aux éditions Paris Gram.
Alors Gilles Thomas, nous avons évoqué tout l'ossuaire, etc. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure, mais tout ça n'existerait pas sans les fameuses carrières. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est la même époque évidemment. Il y a une concomitance entre la nécessité d'assainir les cimetières de Paris et la prise de conscience de l'existence de ce sous-sol incroyable, complètement troué comme un gruyère.
Effectivement, à la même époque où on va décider de transférer des ossements dans ce qui va devenir les catacombes, on s'aperçoit que Paris est sous-miné par d'anciennes carrières, mais d'anciennes carrières qui avaient été exploitées auparavant sous la campagne environnante. Et Paris, ne cessant de déborder sans arrêt ses limites, est venu construire des bâtiments au-dessus du vide d'anciennes carrières parce qu'on avait oublié leur existence.
C'est ça, c'est-à-dire qu'à l'époque où on construit les bâtiments, on ne se doute même pas qu'il y a tout ce creux, tout ce vide en dessous, en fait. Hein.
À l'époque où on construit, au-dessus du vide, on ne sait pas parce que les premières carrières souterraines ont été exploitées à la fin du 12e, début du 13e siècle, et les premiers effondrements se produisent à la fin du 18e siècle.
Alors, ces carrières du Moyen-Âge, donc, il faut expliquer à quoi elles servaient. C'était des carrières de pierre, tout simplement, pour construire des bâtiments, en fait. Hein, c'est ça, l'idée.
Ces carrières sont de deux types de matériaux. Ouais. Sous, on va dire principalement la rive gauche, c'est du calcaire grossier, c'est-à-dire c'est la pierre à bâtir. C'est ce qui va servir à construire les ponts, Notre-Dame, un certain nombre de bâtiments. Et sous la rive droite, ce sont les carrières de gypse, c'est-à-dire c'est la pierre à plâtre.
Donc en fait, un certain nombre des bâtiments médiévaux de Paris ont été bâtis avec des pierres qui venaient de ces fameuses carrières.
Les bâtiments qui sont en pierre toujours aujourd'hui et qui datent du Moyen-Âge viennent des carrières qui sont devenues parisiennes lorsqu'on a construit au-dessus de ces villes.
Ça, c'est extraordinaire. Alors, autrefois, à l'époque gallo-romaine, dans la période du haut Moyen-Âge, on avait tendance à faire des carrières à ciel ouvert. Et puis, petit à petit, on va s'enfoncer, si je puis dire, sous terre. Hein.
C'est effectivement par un besoin de plus en plus de pierres que l'on va arrêter ces exploitations à ciel ouvert. On va rentrer directement de plein pied dans le banc de calcaire pour ne pas avoir du travail à faire pour faire apparaître ce calcaire.
Alors, c'est le 4 avril, j'ai appris ça aussi en vous lisant, le 4 avril 1777 qu'est créée l'inspection des carrières à Paris. Donc c'est pas un hasard, on est toujours sous le fameux règne de Louis XVI. Hein. Et là, les inspecteurs commencent à regarder ce qui se passe et ils découvrent des choses dont ils n'avaient même pas l'idée, bien entendu.
C'est effectivement, on n'avait aucune référence en France, mais nulle part ailleurs, on avait été confronté dans le monde à une ville qu'il fallait consolidée parce qu'elle était en train de s'écrouler. Et la chance qu'a eu ce service, c'est que le premier inspecteur général qui a été nommé était Charles-Axel Guillaumeau, qui était l'architecte du roi.
Pourquoi dites-vous que c'est une chance?
C'est une chance parce qu'il s'est mis à travailler sous terre, comme il travaillait en fait dans les bâtiments en surface, sans se soucier que les architectures souterraines, personne n'allait vérifier la beauté, la majestuosité qu'elles pouvaient avoir.
Et donc, il a fait de ces énormes galeries souterraines son univers, son royaume d'une certaine manière. Il s'appelait Charles-Axel Guillaumeau, hein, c'est ça?
Il s'appelait Charles-Axel Guillaumeau. Axel ouais. étant un prénom d'origine suédoise.
Oui.
Et dans toute la famille qui existe aujourd'hui, il y a à peu près 800 descendants. Ce prénom s'est transmis de branche en branche.
Alors, qu'est-ce qu'on lui doit à ce monsieur Guillaumeau? Quel est son legs? Quel est son héritage?
Eh bien, justement, il a construit, par exemple, quelques casernes en surface, des casernes pour les gardes suisses. Des casernes pour les gardes suisses, il n'en reste qu'une, par exemple, celle de Rueil, parce que malheureusement, l'urbanisation en surface fait que les casernes ont été démolies. Mais sa plus grande œuvre, c'est son œuvre au noir et que...
Son œuvre souterraine.
Son œuvre souterraine, ce sont des kilomètres et des kilomètres de galeries.
C'est complètement incroyable. Alors pourquoi a-t-il bâti ces galeries? Pour éviter des effondrements, c'est ça l'idée? Quelle est
l'idée de génie qu'il a eue, comme il était architecte, ça a été de faire des fondations a posteriori aux bâtiments qui avaient été construits sur du vide sans le savoir.
Voilà. Alors voilà, ça c'est fondamental que vous nous disiez ça, parce que je n'avais même pas compris ce principe. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait du vide, on avait ces espèces de carrières qui étaient là et dont on avait oublié jusqu'au souvenir, et comme il les découvre lui, il va essayer de compenser en recréant des fondations, c'est ça l'idée. Hein.
Il recrée des fondations et c'est les bâtiments en surface étant par définition à peu près mitoyens les uns à côté des autres, il crée des piliers maçonnés les uns à côté des autres et il est en train de constituer la doublure topographique du Paris du siècle des Lumières.
Mais donc on lui doit beaucoup à ce monsieur en quelque sorte. Hein.
On lui doit la survivance de Paris. Paris ne s'est pas écroulé grâce à lui.
Ah oui, est-ce qu'il a au moins une rue dans Paris, monsieur Guillaumeau?
Ah, ça c'est un problème qu'a soulevé un historien anglais, c'est que effectivement. Jusqu'à présent, aucune rue ne lui a été accordée et il y a à peu près un an, le Conseil de Paris a enfin décidé qu'une rue devrait lui être accordée, mais on attend la décision finale, le choix de l'emplacement pour cette esplanade ou rue Charles-Axel Guillaumeau.
Et lui-même, il est inhumé à quel endroit? Il n'est pas dans ces fameuses galeries?
Il est peut-être dans ces fameuses galeries parce qu'il avait été inhumé dans le cimetière Sainte-Catherine. Ce cimetière a été vidé progressivement au cours du 19e siècle, donc ses ossements ont certainement été rapatriés dans les catacombes, mais sa pierre tombale qui a été recensée au 19e siècle n'a même pas été conservée, alors que sur cette pierre c'était marqué Charles-Axel Guillaumeau, inspecteur général des carrières.
Ah oui, donc on ne peut pas dire qu'on ait fait preuve à son égard d'une gratitude extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ni au moment où on a vidé le cimetière, ni aujourd'hui.
Alors, est-ce que le Héricard de Thury dont vous nous parliez tout à l'heure est son successeur direct ou est-ce que...
C'est le deuxième inspecteur général en titre, oui. Mais entre la mort de Guillaumeau et Héricard de Thury, comme Charles-Axel Guillaumeau avait tout imaginé pour consolider cette ville, le service a été mis entre les mains de trois ingénieurs pendant une année et Héricard de Thury est effectivement son premier successeur.
Alors, c'est bien Guillaumeau qui a accueilli les premiers ossements.
Guillaumeau, pendant qu'il commence à faire ses consolidations sous Paris, à partir de fin 1785, il va assurer le transfert des ossements.
Il ne doit pas être forcément très content de l'affectation nouvelle qu'on donne aux galeries qu'il vient de consolider, en fait.
Non, le choix, ça a été décidé en commun accord avec Guillaumeau, de réutiliser une partie de ses carrières qui était sous la banlieue.
Et donc, ça va prendre l'extension qu'on sait. Et celui qui va donner la physionomie que nous connaissons à la présentation des ossements, c'est justement Héricard de Thury.
C'est Héricard de Thury qui va avoir l'idée de préparer ses parois d'ossements pour les présenter au public et donc il va les ornementer.
Avec des formes particulières, il va inventer littéralement un genre à part entière, une sorte d'architecture funèbre d'une certaine manière.
Oui, il y a des formes très particulières, des croix avec des crânes, mais ce principe d'utiliser les crânes pour faire des décors a été utilisé jusque dans les années 20. On avait une tour Eiffel qui était représentée en crâne, il y avait Notre-Dame qui était présentée en crâne.
Là j'ai sous les yeux une photo de votre ouvrage avec un cœur qui est fait avec des crânes au milieu des tibias qui sont là.
Oui, et ce crâne date justement de la deuxième période de transfert de 1860.
On met même des espèces d'ossements autour des piliers. Ça, c'est assez spectaculaire.
Alors ça, c'est particulier. Ça a été pour éviter que ne se reproduise une fête clandestine qui avait été organisée à la fin du 19e siècle.
Ah bon ? Expliquez-nous ça.
Alors, en avril 1897, un concert clandestin a été organisé.
Oui.
Il a été organisé avec l'aide de deux employés de l'inspection des carrières qui, lorsque leur méfait a été découvert, ont été remerciés. Mais quelques temps après, ils ont été bien sûr réintégrés. Et dans ce concert clandestin, on a pu entendre des musiques telles que la danse macabre qu'on a écoutée au début de l'émission, ou la marche funèbre de Chopin. Il y a eu des déclamations de poésie romantico-macabre.
C'est quand même étrange la fascination que peuvent exercer ces lieux mortuaires sur un certain nombre de visiteurs. Et évidemment, ça va attirer dans les catacombes toute une faune, si je puis dire, qui veut faire vivre ces lieux d'une certaine manière en dehors des horaires officiels d'ouverture. Et ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que pendant très longtemps, il n'y a pas de séparation entre la partie dont nous parlons, là, cette ossuaire, et puis le reste des galeries, qui sont des galeries vides, d'une certaine manière.
Hein. Non, effectivement, puisque l'ossuaire municipal, c'est 600 mètres de galerie au milieu des ossements, et ces 600 mètres de galerie sont au sein d'un réseau qui fait 200 km de galerie. Et jusqu'en 1982-83, il n'y avait pas de séparation.
Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a fait la séparation dans les années 80?
On a fait une séparation pour essayer de sécuriser le site en se disant que les fêtes qui étaient peut-être organisées dans le réseau principal autour de l'ossuaire, si jamais elles arrivaient dans l'ossuaire, ça serait moins respectueux pour l'ossuaire.
Alors, il y a donc, on a bien compris, cette partie officielle qu'on visite comme on visiterait un musée où on va voir les ossements qui se trouvent dans cet ossuaire. Donc cet ossuaire souterrain qu'on appelle les catacombes. Et puis, il y a des kilomètres et même des dizaines de kilomètres de galeries qui sont officiellement fermées au public. Je dis officiellement parce que moi, je ne pense pas révéler un grand secret en disant que j'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises il y a longtemps. J'étais jeune, aujourd'hui j'oserais plus faire ça. Parce qu'il faut, il faut marcher à plat ventre dans des petits boyaux qui font 30 cm de haut. Enfin, il y a un petit côté un peu spéléologie pour accéder quand même, il faut le dire.
C'est de la spéléologie urbaine, dirons-nous, voilà. Parce qu'on n'utilise pas de cordes, mais on est dans le noir, on est dans ce qui fascine les personnes, c'est d'être sous Paris, sous la capitale.
Oui. Et donc ça, c'est interdit officiellement.
Ça, c'est officiellement interdit et il y a effectivement un arrêté qui a été pris le 2 novembre 1955 qui interdit de circuler sous Paris sans autorisation.
Alors comment expliquer qu'il y ait tant de monde si c'est interdit? C'est presque un sport local, si je puis dire.
Ça a toujours été fréquenté, la preuve en 1897, la preuve de nos jours, parce que de temps en temps, il y a un article ou un documentaire qui va transparaître dans la presse et qui va remettre l'accent sur cette fréquentation clandestine.
Oui, vous êtes en train de me dire que l'émission qu'on fait en ce moment même va sans doute donner quelques envies à quelques jeunes gens qui aiment le côté funèbre, le côté souterrain. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une partie pourtant pédagogique, voire instructive dans ces visites de galeries, parce qu'on retrouve quasiment comme un décalque, on retrouve l'architecture urbaine de la surface, mais vue du sous-sol cette fois. C'est assez étrange. On a même des plaques qui indiquent les noms des rues, etc. Hein.
On a des plaques qui indiquent le nom des rues, mais le nom des rues au XVIIIe siècle, c'est ça qui est intéressant. On voit apparaître le premier système de numérotage des rues de Paris.
Ah
on
oui
voit... Ce système date de 1779, c'est la même période. Et il est mis en application dans les carrières pour essayer de se localiser précisément. On voit apparaître le système métrique. Quand en 1795, on passe du pied-pouce au mètre et ses déclinaisons, on va faire une conversion de toutes les indications qui étaient au préalable en pied-pouce, on les fait en système métrique au dixième de millimètre, parce qu'on ne sait pas ce que c'est un mètre. Donc on est véritablement dans une tranche figée de l'histoire de Paris.
Et quel est le lien avec les égouts de Paris? Est-ce qu'il y en a un?
Le seul lien, c'est que les égouts, c'est une autre tranche de l'histoire de Paris, mais beaucoup plus récente et qui est au-dessus.
C'est encore au-dessus.
C'est
en
encore
fait,
au-dessus. Hein. Et dans les égouts, les plaques en tôle émaillée vont éventuellement indiquer le nom de rue de la fin du 19e quand on a commencé à les installer.
Et alors là, pour le coup, les égouts, eux, ils suivent exactement le tracé des artères, des rues, des places, etc. Enfin, à très peu de choses près.
Et le nombre de kilomètres est beaucoup plus grand.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils se visitent aussi. Il faut aller au pont de l'Alma, si ma mémoire est bonne. Et ça se visite. En tout cas, on en visite une petite portion de façon officielle. Mais là encore, il y a des gens qui, bien entendu, aiment pirater les clés officielles et aller...
Il y a très peu de personnes qui vont volontairement
s'aventurent dans les égouts.
Dans les égouts. Mais effectivement, comme pour les catacombes, c'est une partie du réseau d'égouts qui est ouvert au public.
Alors, merci de nous avoir servi de guide, on va dire, dans cet extraordinaire dédale souterrain. Pour résumer les choses et que ce soit bien clair, on a d'anciennes carrières du Moyen-Âge qui ont été agrandies, préparées, consolidées, en tout cas, à la fin du XVIIIe siècle, dans lesquelles on s'est débarrassé de tous les restes de ces anciens cimetières parisiens jusqu'à en faire un immense ossuaire. Il y a donc maintenant deux parties des catacombes, la partie officielle de l'ossuaire et la partie plus officieuse officiellement interdite au public et où néanmoins ont lieu de temps en temps des petites fêtes pas très officielles. Quoi, voilà.
C'est un excellent résumé.
Voilà, eh bien, merci beaucoup
à vous.
Gilles Thomas. Je rappelle le titre du guide que vous proposez très illustré aux éditions Parigramme. Ça s'appelle « Les catacombes de Paris ». C'est plein d'os, c'est plein de crânes, c'est la danse macabre.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Cyril. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait connaître l'origine du mot bouffon.
Je ne sais pas si c'est une question bien honnête, ça, Cyril. Alors, le mot bouffon vient de l'italien buffone. Buffone qui désigne une personne dont le rôle est de faire rire, que ce soit publiquement au théâtre ou surtout à la cour, bien entendu. L'étymologie, c'est bouffe qui désigne le gonflement des joues, vous voyez, qu'on trouve dans bouffer, par exemple, ou bouffir en français. Mais c'est le même mot. Le bouffon, c'est celui qui fait des onomatopées, qui fait des gestes grossiers, qui fait rire de façon un peu grossière dans un premier temps. C'était notamment le cas dans l'Antiquité, dans la Grèce et dans la Rome antique. Ça l'est peut-être un peu moins à partir du Moyen-Âge, lorsque le bouffon devient une véritable personnalité de la cour. En France, on l'appelle d'ailleurs plutôt le fou de cour ou le fou du roi, hein, plus que le bouffon. Alors le bouffon, on sait que ce fou, il a tous les droits. Il est le seul à pouvoir dire toutes les vérités, c'est assez extraordinaire, un peu à ses risques et périls, mais il est protégé personnellement par le souverain. Il est une sorte de paratonnerre de tout ce qui ne doit pas être, dit. C'est mon ami Denis Boissier qui a très bien démontré ça en faisant toute la liste des attributs du bouffon, dont le principal, bien entendu, est cette couleur verte qu'il trimballe partout. Le bouffon, on le reconnaissait, enfin le bouffon, le fou de cour, on le reconnaissait dans l'entourage du roi par cette tenue verte qui l'accompagnait partout.